commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission mensuelle de Sortir du nucléaire, Drôme et Ardèche. Aujourd'hui, nous rencontrons Yann Louvel, des Amis de la Terre. Nous l'avons rencontré à Cray, vendredi dernier. Mais avant cela, place à nos billettistes. Georges, c'est toi qui veux toujours nous parler de Fukushima, mais je pense qu'on en a pour des années.
Oui, ils disent 40 ans, mais bon, j'ose pas dire le reste. Alors, bon, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est d'une part les eaux contaminées, et de l'autre, les mesures de la radioactivité. Alors, sur les eaux contaminées, le 9 avril, TEPCO admettait ne pas avoir de citerne en construction pour accueillir l'eau des réservoirs souterrains, après l'aveu des fuites sur les réservoirs 2 et 3, d'eau contaminée creusée dans le sol. À peu près 167 tonnes d'eau, le 5 et 7 avril, et une quatrième fuite le 11 avril. Le gouvernement japonais a demandé de cesser d'utiliser ces réservoirs souterrains. TEPCO, comme il est dit plus haut, ne dispose pas en quantité de ces citernes, seulement 933 citernes en acier. Pourtant, l'eau contaminée, soit 400 tonnes d'eau par jour, issue du refroidissement des piscines et réacteurs, doit être stockée. L'eau ayant fui dans l'océan atteindrait les 290 millions de becquerels par litre, alors Heroes, prédisant de TEPCO, annonce quelques milliers de becquerels et la norme est de 100 becquerels par litre. TEPCO mise sur un nouveau procédé de Toshiba, la LPS, qui permettrait de réduire 62 radionucléides sur 1000 présents dans cette eau contaminée. Un système à l'essai depuis fin mars jusqu'en septembre minimum pour 250 tonnes d'eau traitées par jour. L'objectif final est de pouvoir légalement relâcher cette eau traitée dans la mer. A noter que depuis 1993, le stockage en mer de fûts de matière irradiée à plus de 4500 mètres de profondeur est interdit, mais il est toujours légal d'y rejeter des radionucléides. Voilà, déjà une bonne partie des bonnes nouvelles. Alors la suite, les mesures de radioactivité au Japon sont truquées. L'information date du 11 avril 2013. D'après Friday Hebdo japonais et son journaliste Krishima Situn, les monitoring post-appareils de mesure de radiation à écran installés par le ministère de la Recherche juste après l'accident dans les zones de la région de Fukushima pour démontrer que les taux de radiation sont bas, donc l'influence sur le corps humain est faible, affichent des chiffres inférieurs de 51% en cas d'alentour décontaminés et 56% sans décontamination face aux mesures faites par Yagasaki Katsuma, professeur à l'université de Ryukyu, entre août et octobre de l'an dernier. Quant à Friday, sur 23 appareils de mesure, le journaliste a relevé des chiffres tirés de son radiomètre. La photographie, à côté des monitorings postés, jusqu'au double de ceux affichés par ceux-ci, le radiomètre de haute précision portable utilisé pour la contre-mesure est employé par l'administration, entre autres. Ce problème de désinformation est récurrent depuis 2011. Même les balises sur le site de Fukushima sont entourées de murs pour faire baisser les taux. Alors, au sujet de la photo, les photos et l'article sont disponibles sur Sud-Ouest Blog du 11 avril 2013. Voilà. Et à la prochaine fois.
Merci Georges. Alain, tu es un des animateurs de Stop Tricastin qui vient de se créer et je crois que tu veux nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière.
Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Sortir du nucléaire de Drôme Ardèche est passé à l'action pour rassembler tous les antinucléaires de la vallée du Rhône. Et effectivement, après Stop Fessenheim et Stop Buget, j'ai le plaisir de vous annoncer la création du collectif Stop Tricastin. En effet, nous sommes depuis longtemps favorables à une unification du mouvement antinucléaire, si ce n'est sur tous les sujets, au moins dans l'action sur des objectifs précis et clairs. En ce sens, la demande de fermeture immédiate du Tricastin fait l'unanimité de tous les groupes, qui vont de la coordination antinucléaire 84 à Greenpeace, en passant par des élus locaux. Et nous sommes heureux que cette convergence indispensable dans les 5 départements de la Drôme, de l'Ardèche, du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ait abouti. Abandonner le nucléaire est une question de santé publique, de survie. L'urgence ne permet pas d'attendre. La fermeture des centrales et des sites nucléaires est incontournable. en particulier celui du Tricastin, où les réacteurs nucléaires ont dépassé les 30 ans de leur durée de vie initialement prévue et accumulent les incidents et accidents dits mineurs. Face à ce danger immédiat, le collectif Stop Tricastin a été créé pour mobiliser les populations, mettre les élus devant leurs responsabilités, briser la loi du silence en informant aussi les médias, jusqu'à l'arrêt total des installations du site nucléaire de Tricastin avant son démantèlement et sa reconversion. La première action d'éclat du nouveau collectif a eu lieu vendredi dernier, 26 avril, pour l'anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, en investissant la mairie de Montélimar, siège du député-maire Franck Régnier, dont les positions pro-nucléaire sont connues. Une trentaine de nos militants ont déployé des banderoles sur la façade de la mairie et occupé l'espace pacifiquement pendant une heure environ. Pendant ce temps, d'autres militants animaient la place de l'hôtel de ville avec des fumigènes, des sifflets, des slogans et des pancartes. Nous voulions interpeller le maire pour savoir, entre autres, comment il évacuerait et protégerait ses administrés en cas d'accident au Tricastin. Nous avons été reçus par le cabinet du maire, auquel nous avons demandé que soit organisée une réunion avec tous les élus, Areva et EDF, sur l'information à donner aux habitants de Montélimar en cas d'accident nucléaire. Ensuite, nous avons rejoint nos amis du CAN 84, qui terminaient leur marche anti-nucléaire de 10 jours devant la centrale du Tricastin. Par chance, la création et le lancement du collectif s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle campagne de sortir du nucléaire qui vient de débuter. Cette campagne s'intitule « Nucléaire, de la mine aux déchets, tous concernés ». Nous sommes en effet particulièrement concernés au Tricastin par la fabrication du combustible nucléaire et les va-et-vient des transports de matières radioactives, transports qui emmènent le combustible dans les 54 autres réacteurs de France et transports qui emportent les déchets dans l'usine de Lagues. Nous pourrons ainsi bénéficier de la logistique et des moyens du réseau pour amplifier nos actions afin de barrer la route de l'uranium. Pour des informations complémentaires sur cette nouvelle campagne, allez vite sur notre site SDN2607, je précise, SDN en minuscule, 26-07.org, et regardez la vidéo. En fait, c'est une espèce de nuage bleuté qui apparaît à la rubrique Agir Plus. Au revoir, à bientôt.
Merci Alain. Et pour introduire notre entretien sur la finance et le nucléaire, une chanson de circonstance d'Olivia Ruiz, La Petite Voleuse.
Quand je serai grande, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse. Le doigt est précis et l'œil vigilant. Je me suis bien juré de voler de tout. Voler pour voler, pour l'amour du geste. Faire ça difficile, c'est manquer de goût. On peut être doué et rester modeste. Faut pas croire pourtant que je manque d'ambition. Je me ferai les palaces, les soirées mondaines. À ce con du fric, tirer du pognon. C'est assez moral et ça paye sa peine. Je volerai des billes, de la Pécadille, des oui et des non pour le grand frisson. Je volerai des trucs, des engins caducs, des machins bizarres et des œuvres d'art. Je prendrai sans remords leurs bagues aux morts et bien entendu leurs cordes aux pendus. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. J'aurai un costume velours et satin, noir comme la nuit, faut rester discrète. Un loup sur le nez et des gants aux mains, moitié fantomasse, moitié fantomène. Comme une référence pour les tire-laines, les vies de gousset et les montes en l'air. Je me vois assez bien traitée comme une reine, secrète et rusée par la paix grandière. Mais toujours toute seule, comme sont les vrais faux. Je partagerai pas je garderai le butin. Et je ne serai, et tant pis pour les pauvres, ni Robin des Bois, ni Arsène Lupin. Je volerai du fer blanc, de l'or, des diamants, des bijoux, des chaînes, le collier de la reine. Je volerai sûrement l'orange du marchand pour porter bonheur à un raton laveur. Je volerai encore le jour de ma mort tous les portefeuilles de la famille en deuil. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. Je me fais poisser devant le tribunal, je me démontrerai pas. Je n'ai que le goût, messieurs les jurés, du travail bien fait et de l'artisanat. Que nous dit le monde si nous l'écoutons? La bourse ou la vie et les mains en l'air. Ainsi font, font les fonds de pension, les marchands du temple et leurs actionnaires. Faut pas s'étonner que ça fasse des envieux. On n'a pas besoin de tout cet étalage. À force de dire moi aussi j'en veux, on va tous finir dans le cambriolage. On volera des billes, des baisers aux filles, des petits bonbons, des bombes à neutrons. Passer à la caisse, on prend quelques espèces, et à l'occasion quelques stocks options. Qu'on soit voleur ou spéculateur, on met nos arnaques dans le même sac. En volant le beurre et l'argent du beurre, on fait son profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. Est à moi, est à moi.
Alors que l'affaire Cahuzac et les révélations des journalistes regroupés dans le groupe Offshore Leak a remis sur le devant de la scène les paradis fiscaux, il nous a paru intéressant d'examiner le rôle de la finance dans la politique énergétique et plus particulièrement la politique nucléaire. Pour cela, on n'avait pas allé bien loin, on est allé voir Yann Nouvel. Il est chargé de la campagne sur la finance privée depuis 2007 pour les Amis de la Terre. L'objectif de cette association, mais il va nous en reparler, c'est de changer les pratiques irresponsables des banques et des assurances françaises. Enfin, les Amis de la Terre également décernent chaque année un bonnet d'âne aux banques. Je pense que là aussi, on aura l'occasion d'en retrouver. Donc, bonjour Yann.
Bonjour.
Ma première question, d'un point de vue général, c'est comment et pourquoi les Amis de la Terre ont décidé de lancer cette campagne intitulée « Responsabilité des acteurs financiers ».
Alors, juste une précision, je suis référent de la campagne depuis 2010. J'étais salarié pendant 3 ans et je suis bénévole depuis. Et maintenant, je travaille pour le réseau BankTrack à l'international, dont on parlera plus tard. Alors oui, sur l'histoire de la... C'est intéressant de comprendre d'où ça nous est venu de travailler sur les banques, parce que c'est quelque chose qui surprend souvent les gens de « Tiens, une association écologiste qui travaille sur les banques, mais d'où ça vient ?» C'est assez simple, en fait, et c'est très complémentaire à l'approche d'attaque, par exemple, mais très différent. On vient, nous, des projets physiques à travers le monde qui posent problème, pas que nucléaire, n'importe les gros projets d'infrastructure, ça peut être des grosses usines, des projets pétroliers, gaziers, des grandes centrales à charbon, des grands barrages. Et voilà. Et la logique qu'il y a eu, ça a été de se dire, dès les années 90, on regarde quelles sont les entreprises qui font ces projets, mais on regarde aussi l'étape d'après, c'est-à-dire quels sont les financiers qu'il y a derrière ces projets, en se disant, la logique, elle est assez simple, en fait, c'est que soit on veut arrêter le projet qui ne se déroule pas, et donc si on attaque les financiers et si on bloque les financements, pas de projet, soit au minimum, parce qu'il faut avouer qu'on arrive à stopper quelques projets, mais enfin il y a quand même beaucoup de projets qui se font aussi malheureusement, au minimum le fait de faire pression sur les financiers améliore indirectement les conditions sociales et environnementales de ces projets, c'est-à-dire qu'ils ressentent quand même la pression de la société civile et donc ils se sentent, c'est là où la frontière et les effets concrets c'est toujours difficile à juger, mais enfin ils se sentent obligés quand même de faire quelque chose pour améliorer ces conditions-là et pour qu'ils passe, que ce soit, qu'il y ait moins d'impact sur le terrain.
Bon. Ces pressions sur les financiers, elles sont de quelle manière ? Par une dénonciation, par des campagnes de presse ?
Pure dénonciation, campagne publique. Donc, interpellation, au début, dialogue, on les prévient par lettre, etc. Voilà, on a repéré ce projet-là. Souvent, les projets, on les entend, ça vient directement des ONG locales, qui à un moment, ça arrive souvent comme ça, à un moment donné, on nous contacte, tiens, il y a tel projet à tel endroit, une ONG locale qui fait campagne, ça peut provenir des réseaux internationaux, justement, Amis de la Terre, ou Greenpeace, ou d'autres, et on nous dit, ben voilà, ils en sont rendus au financement, et donc nous, on investigue, on regarde où est-ce qu'on en est rendu, quelles sont les banques qui pourraient être intéressées, et là, on commence la campagne, on envoie des messages, attention, on a repéré ce projet, on ne va pas que vous le financiez, et si les banques le financent quand même, là, c'est campagne publique, on attaque la réputation, manif, on demande aux gens de retirer leur argent de ces banques, manifestation devant le siège à Paris, article dans la presse, pure campagne de dénonciation, on attaque la réputation des banques dont elles sont très... elles craignent énormément, elles sont très protectrices évidemment de cette réputation, donc c'est évidemment ça qu'on utilise, c'est vraiment cet aspect-là.
Alors, nous, à Atomic Mac, on aime bien dire les choses carrément. En gros, dans les grandes banques françaises ou les banques installées en France, quelques noms.
Absolument, c'est très simple la situation en France. Et alors là, du coup, je parle même pas seulement pour le nucléaire. On a démarré la campagne en 2005 sur les banques privées, après avoir commencé par attaquer la Banque mondiale et les acteurs publics, qu'on continue aujourd'hui, mais on est aussi sur les acteurs privés. Donc là, l'image, elle est ultra simple, que ce soit le nucléaire, le charbon, tous les droits humains, tous les sujets à peu près qu'on veut, on retrouve toujours, 3 banques françaises, à peu près partout, à travers le monde, dans tous les projets controversés, dans énormément de projets controversés, qui sont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. C'est vraiment les 3 mastodontes français, avec plein de filiales à travers le monde, qui sont présents dans énormément de projets. Dès qu'il y a un projet, on peut être à peu près sûr qu'il y aura au moins une de ces banques françaises, et souvent il y en a plusieurs. Donc voilà, pour la France, on a nos 3 usual suspects, comme on les appelle, et elles sont connues pas seulement en France, mais dans le réseau international à Banktrack, tout le monde les connaît, parce qu'on les retrouve tout le temps. Et donc notre rôle à nous, aux Amis de la Terre en France, c'est de se faire le relais, et dès qu'on voit quelque chose dans lequel il y a des banques françaises impliquées à travers le monde, et ben voilà, on se met à interpeller ces banques sur ces projets, et à faire campagne quand c'est nécessaire pour essayer de bloquer ou d'améliorer ces différents projets controversés à travers le monde.
Alors, les banques, la finance, c'est international, obligatoirement. J'imagine qu'une campagne qu'en France n'aurait pas beaucoup d'impact. Est-ce que vous êtes, je viens d'entendre parler de Banktrack, vous êtes organisé internationalement dans un réseau ?
Absolument, ça s'est fait progressivement. On fête notre 10e anniversaire. Donc moi qui travaille maintenant pour Banktrack, c'est exactement ce que tu as décrit. Il y a très peu de projets à travers le monde qui sont financés par des banques d'un seul pays. C'est quasiment la règle générale qu'il y a tout le temps des banques de différents pays, d'où l'intérêt d'avoir ce réseau Banktrack international qui regroupe toutes les ONG qui, chacune dans leur pays, attaquent leur banque. Nous, c'est les banques françaises, mais évidemment, c'est la même chose pour les ONG allemandes, américaines, aux Pays-Bas, en Angleterre, de plus en plus dans les pays du Sud également, au Brésil, ça vient un petit peu pas encore en Inde, un petit peu en Chine, pas encore en Inde, mais ça devrait pas tarder. Et donc on est organisé soit par projet, c'est-à-dire sur un projet, toutes les ONG qui ont des banques de leur pays qui sont dans ce projet, eh ben on discute tous ensemble quelle stratégie adopter, chacun attaque sa banque dans son pays à tel moment, on s'échange des informations, les rencontres, quand on fait venir des gens des pays où il y a les projets, on leur fait rencontrer les décideurs des banques, des gouvernements, etc. Donc dans chacun des pays, on se regroupe pour que la personne aille dans différents pays. Soit ça, soit par thématique. Là, on parle du nucléaire, mais il y a toutes les thématiques, comme les banques financent toute l'économie. On a des ONG qui sont spécialisées sur banque et droits humains, banque et climat, banque et charbon, banque éthique. Enfin bref, il y a différents domaines. Donc on est aussi organisé, toutes les ONG qui travaillent sur une même thématique se regroupent, se mettent ensemble, se rencontrent régulièrement, échangent au niveau stratégie, etc. Et il y a un groupe de travail précisément sur cette question du nucléaire, C'est la campagne Nuclear Banks No Thanks qu'on a lancée en 2010, donc ça va bientôt faire 3 ans, qui regroupe une dizaine d'ONG à travers le monde qui travaillent spécifiquement d'une façon ou d'une autre sur cette question banque et nucléaire.
Oui, un peu par exemple les financements, quand EDF ou Areva veulent s'installer quelque part, j'imagine qu'ils font appel à ces fameux 3 grands groupes banquiers, et là vous essayez de démêler un petit peu les modes de financement à la fois nationaux et privés, quoi.
Exactement ça. Alors au niveau de des sources d'informations, je vais être assez rapide, mais on dispose de Profundo, c'est un cabinet de conseil qui est partenaire de BankTrack, à qui on fait toutes nos demandes, parce qu'il y a pas mal d'informations qu'on trouve sur Internet, mais qui sont payantes, c'est-à-dire sur des bases de données internationales financières payantes. Et donc, plutôt qu'on paye à chaque fois à chacun, il y a Profundo qui est abonné à toutes les bases de données. Et donc, nous, on paye Profundo qui lui-même va chercher toutes les informations qu'on veut sur une entreprise ou sur un projet précis. C'est grâce à eux qu'on a ces informations-là. C'est important à comprendre et on dénonce évidemment depuis 5 ans que je travaille sur le sujet. Je n'ai jamais eu une réponse satisfaisante. On dénonce perpétuellement l'hypocrisie des banques qui, d'un côté, quand on leur pose des questions, disent « Ah, désolé, on ne peut pas vous répondre secret professionnel avec nos clients. » Et de l'autre, il suffit juste d'avoir quelques milliers d'euros, être capable de se payer un abonnement à ces bases de données. Et miraculeusement, on obtient plein de données qui sont soi-disant secrètes, classées secret défense, qu'ils n'ont pas le droit de dire. Donc ça, on a toujours dénoncé, on continuera toujours de dénoncer cette hypocrisie.
Oui. Pour rester un petit peu comme ça, je pensais un peu discuter sur les campagnes de terrain, mais il y en a une là pour l'instant concernant le nucléaire. J'ai vu que Société Générale et puis l'industrie nucléaire en Russie notamment, vous étiez en train de mener une campagne. Tu peux nous en dire 2 mots un tout petit peu? Comme ça illustre concrètement un petit peu le boulot que vous pouvez faire, quoi.
Absolument. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas fait ça. Il y a eu quand même la période post-Fukushima qui a un petit peu calmé quelques projets, les ardeurs au niveau international, et notamment quelques projets qu'on suivait, certains qui sont toujours gelés pour le moment et qui risquent de se dégeler assez rapidement. Je pense à Jaitapur, l'EPR en Inde. Pour l'instant, on n'est pas encore à la phase critique, mais ça s'en rapproche. Il y a eu le projet Angra 3 également au Brésil. Mais là, l'actualité nous rattrape sur la Russie, un projet qui était en stand-by depuis un bon moment. Kaliningrad, c'est dans l'enclave russe qui est située entre la Lituanie et la Pologne, donc un petit peu à l'écart de la Russie, mais qui fait partie du territoire russe. Et alors là, on est vraiment dans un projet géopolitique majeur. Donc effectivement, on a lancé le branle-bas de combat quand on a appris que il passait réellement à cette étape de recherche de financement, parce que voilà, bon, ils discutent, il y a tous les processus, les permis à adopter, ça peut prendre des années, hein. Il y a beaucoup de projets comme ça, il y a des projets qui sont soi-disant en construction depuis des décennies, bon voilà, il se passe rien. Et là, on a appris que non, là ils arrivent, les travaux ont commencé sur place et ils en sont rendus à la phase très justement de chercher des financements pour réaliser le projet. Et on a lancé nos recherches et on s'est aperçu que c'était Société Générale en France qui avait pris le mandat de justement qui a été embauché pour justement définir les conditions du projet, notamment les conditions techniques et les conditions financières. C'est-à-dire que c'est la Société Générale qui va devoir voir ce que ça donne au niveau financier et aller chercher d'autres banques, les autres financements.
Oui, il joue le rôle de producteur comme au cinéma, quoi.
Exactement, c'est exactement ça, le rôle de producteur comme au cinéma. On les a rencontrés, il y a Vladimir, on est en relation avec une ONG russe, EcoDefense, qui est très active depuis des années, ça fait depuis 2007 et même un peu avant, qui se mobilise en Russie contre ce projet. Il est venu, Vladimir, pour rencontrer la COFAS et la Société Générale en mois de mars, et c'est là qu'on a appris qu'ils étaient effectivement en cours dans ces mois-ci, maintenant, en train d'analyser le projet et qui prendrait une décision sur ce projet dans les prochains mois, d'où la mobilisation contre la COFAS et contre la Société Générale qui a démarré à l'occasion du Tchernobyl Day le 26 avril dernier, où on a lancé, on a lancé pour l'instant une cyberaction en ligne avec le site Cyberacteur, avec pas mal de soutien, Réseau Sortir du Nucléaire, Greenpeace, ATTAC et BankTrack évidemment, qui en est rendu là aujourd'hui, on en est rendu à plus de 3000 participants, donc on espère que ça va continuer, qui interpelle directement directement le PDG de la Société Générale, Frédéric Oudéa, et le PDG de la COFACE. COFACE, c'est l'agence de crédit à l'exportation française qui garantirait...
Oui, c'est un organisme national.
Un organisme national public qui garantirait la vente de turbines d'Alstom. Ce sera avec Alstom pour ce projet.
Avant notre pause, il me vient une question en écoutant ça. C'est, bon, après Tchernobyl, après Fukushima, on imagine que le nucléaire n'est pas spécialement d'avenir au niveau international. On voit bien qu'il y a un ralentissement de la construction de centrales nucléaires par rapport au projet qui existait auparavant. C'est toujours intéressant pour les banques d'investir. Il y a de l'argent à retirer de là ou c'est aujourd'hui des trucs à perte pour les banques?
Alors, ce qui est intéressant, ça va être vraiment l'exemple de Fukushima qui est un peu à double tranchant. L'exemple de Fukushima a démontré d'un côté qu'une entreprise énergétique qui avait une petite part de ses activités dans le nucléaire, TEPCO, c'était, je sais plus, 20 ou 30%, c'était pas EDF, hein, avec pratiquement toutes ses activités là-dedans, c'était un tiers, beaucoup moins de la moitié. Elle a démontré que des entreprises énergétiques qui ont une petite partie de leur activité dans le nucléaire peuvent exploser en vol en un claquement de doigts au moment d'un accident nucléaire. Donc on pourrait penser que ça les inciterait à se dire « Oulala, le nucléaire ultra risqué, ça peut déraper à tout moment, on peut plus tout perdre, pas de remboursement, rien du tout à tout moment. » Donc on pourrait se dire ça, logiquement, économiquement. Deuxième effet qui se coule, la partie double tranchante, qu'est-ce qui s'est passé ? Nationalisation par l'État japonais de l'entreprise.
Donc on
récupère la mise par la nationalisation. Ça peut avoir l'effet exactement inverse. Le nucléaire, où que ce soit dans le monde, de toute façon, si ça pète, c'est l'État qui est derrière et on récupère nos billes. Donc c'est là où c'est beaucoup plus compliqué et c'est vraiment un effet à double tranchant.
On va avoir une chanson de circonstance et on te retrouve, Yann, juste après.
Très bien.
Devant nous, l'an 2000, quelques heures nous séparent. N'en parlez pas, m'a-t-on dit. Et pourtant ce silence a comme un balancement maudit qui vous met la pendule à l'heure. C'est le moment, c'est pas trop tôt, pour parler des troisièmes couteaux. Ils ont de grands ordinateurs, poules de luxe, hommes de paille, requins banquiers, simples canailles. Pas de nom et pas de photo, leurs sociétés sont étrangères, plus compliqué est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau. Il sentait bon son Lugano, mon gestionnaire. Justement près de Lugano était la banque Ambrosiano, là où les vierges vaticanes faisaient fructifier leurs magots. Loge P2 dans ses arcanes à deux massifs cardinaux pour les consultations diaphanes avec de joyeux mafiosos. Le fameux compte à numéro passe de Zurich à Lausanne, de Bâle à Londres, près de Sceaux rencontra le troisième couteau. Il était chauve, il était gros. Portait des fringues de chez Smalto, mon mercenaire. Les
oiseaux prennent toujours pour plan de vol les bulletins de la météo. Ils vont toujours où il fait beau. Il fait beau dans les audimats, dans les sondages du Figaro. Il fait très beau chez la misère et dans les œuvres humanitaires. Il fait beau sur les droits de l'homme, il fait beau chez l'intégration, le plein emploi, l'immigration, on se les gèle dans le pognon. Politiquement, leurs idéaux sont très ciblés sur deux critères, entre Mad Max et l'abbé Pierre. Pas de nom et pas de photo, leurs sociétés sont étrangères. Plus étonnant est le réseau qui les réunit entre frères. Ils ne font rien, ils se situent, ils prennent, ils se gavent, ils se tuent. Trivialité derrière les mots, la réussite dans les crocs. Ils sont là à tous les niveaux, c'est le règne des troisièmes couteaux.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac. Nous sommes également toujours avec Yann Nouvel, des Amis de la Terre, et nous parlons des banques, des financements, et on en était sur les investissements et l'intérêt pour les banques de s'occuper du nucléaire. Ça correspond à quoi en masse financière? Parce que j'imagine si des banques, des grandes banques internationales comme ça vont sur ce terrain, c'est qu'il y a énormément d'argent à gagner. On l'a vu, y compris en récupérant la mise en cas de pépin, c'est les États qui assument. Mais la masse financière qu'il y a derrière ça, c'est vraiment, on a une idée.
Alors on a une petite idée, on a fait une étude, c'était la première fois qu'on faisait une étude sectorielle au niveau international à BankTrack avec Greenpeace International en 2010. On allait au-delà de projet par projet. J'ai parlé de Kaliningrad, souvent on a ces données-là par projet. Là, on a été regardé en 2010 quels avaient été les financements, tous les financements des principales banques internationales dans l'industrie nucléaire. On a été regardé 124 banques commerciales qui avaient investi dans des dizaines d'entreprises nucléaires dans tout le cycle du nucléaire, de l'extraction d'uranium, des mines d'uranium jusqu'au retraitement, en passant évidemment par EDF et compagnie, à l'international. Donc vraiment grosse étude. Et donc ça nous donne une idée. On a été regarder ce qu'il y avait eu comme transaction entre 2000 et 2009. Sur une décennie, les 10 ans des années 2000, et on a trouvé 867 transactions impliquant donc 124 banques pour un total qui s'élève à plus de 175 milliards d'euros, ce qui est quand même assez énorme et qui comprend tout type de financement, c'est-à-dire c'est pas que des prêts, une banque prête à une entreprise, il y a aussi des émissions d'obligations, émissions d'actions, des participations, quelques financements de projets individuels, mais c'est quand même pas la technique la plus utilisée, et de la gestion des détentions d'actions et d'obligations. Donc on arrive à 175 milliards sur une dizaine d'années, et on a pu notamment, grâce à cette étude justement, et c'est une des difficultés qu'on a de plus en plus, qui concerne pas que le nucléaire d'ailleurs, un petit peu dans tous les domaines, qu'on constate qu'il y a de plus en plus la source d'argent des entreprises provient, disons que les entreprises sont financées sur des prêts ou sur des financements généraux qui financent toute l'entreprise et pas sur des projets précis. Et donc c'est plus compliqué pour nous, c'est souvent une excuse qui est utilisée par les banques de dire regardez, nous on finance pas le projet X problématique où il y a tout ce que vous décrivez qui va pas, nous on finance l'entreprise multinationale qui est présente dans le monde entier et qui donc voilà, après ils font ce qu'ils veulent de cet argent, tout ce qu'on veut, tout ce que la banque veut, c'est qu'ils les remboursent, le reste ils s'en foutent. Et donc bon, évidemment nous on utilise l'argument rigoureusement inverse de dire tant que vous ne pouvez pas nous prouver que l'argent que vous prêtez à cette entreprise ne finira pas à tel endroit, dans tel projet, on continuera de vous attaquer, d'attaquer votre réputation. Tant que vous ne mettrez pas dans les contrats, que vous ne pourrez pas nous prouver que ce n'est pas écrit sur un document signé, l'argent que nous prêtons à telle entreprise ne peut pas être dépensé pour tel projet, et ben on continuera de faire campagne.
Alors bon, je peux pas m'empêcher de poser une question, même si là on va sortir de l'international pour venir carrément au concret local. Mmh. Nous sommes ici à Cray, c'est la ville de Mariton, député maire, qui est le porte-parole de l'UMP, notamment responsable de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Mmh. Il est donc en principe idéalement placé pour dénoncer la fraude fiscale, 50 milliards d'euros, hein, on en a parlé, c'est-à-dire plus que les déficits des retraites, de la sécurité sociale, etc. Mariton, c'est un bon député pour chercher, pister la finance ?
Ah non, malheureusement, je l'ai interpellé à de nombreuses reprises de ces dernières années et je vais continuer sur ces deux sujets, les nucléaires et la finance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas autant sur certains sujets comme contre le mariage pour tous. Là, il y a du monde et il est extrêmement actif. On sent bien qu'il en fait une priorité politique personnelle. Autant sur d'autres sujets comme l'évasion fiscale ou le nucléaire. Là, bizarrement, la curiosité est beaucoup moins développée. Je parle de curiosité et l'investigation, quoi. Le travail de parlementaire, quoi. Contrôle du gouvernement. Il y a pas besoin de faire un dessin sur les milliers de choses à aller chercher et à demander au gouvernement et les amendements et les commissions d'enquête, etc., qu'il y aurait sur ces deux sujets. C'est absolument énorme. Et ben, il a à peu près rien fait, hein, ces dernières années. Je l'ai interrogé sur la compétitivité du nucléaire. Il reprend le credo officiel que le nucléaire est ultra compétitif. Il veut rien entendre. Sur l'évasion fiscale, c'est encore pire. Il y a rien. Pire que ça. Sur l'évasion fiscale, c'est encore pire. Il légitime l'évasion fiscale avec son mantra de toujours répéter le matraquage fiscal, etc. Bah oui, c'est normal qu'il y ait des gens qui partent, puisque regardez, il y a trop d'impôts en France. Et ça, c'est absolument insupportable. Quand on connaît toutes les stratégies d'optimisation fiscale et d'évasion fiscale, justement, des riches, là, après l'affaire Cahuzac, après l'affaire Offshore Leaks, entendre légitimer ces pratiques scandaleuses en disant qu'il y a trop d'impôts, alors qu'on sait pertinemment que ces gens-là se débrouillent toujours pour ne pas payer ces impôts-là, c'est particulièrement ignoble. Donc voilà, non, là, sur ces deux sujets, c'est particulièrement pathétique et je ne manquerai pas de continuer de l'interpeller là-dessus ces prochaines années.
Bah, là-dessus, Atomic Max en fera le relais, d'autant que si on s'intéresse à Mariton, c'est pas seulement parce qu'il est ici et responsable de l'UMP, c'est aussi qu'il est dans une des villes qui est entourée par le Tricastin et Cruas, et que la moindre des choses serait qu'au moins par rapport aux citadins de sa ville, il porte un intérêt et un regard, y compris financier, sur le sujet, ce qui semble pas être le cas.
Financier et ne serait-ce que de sécurité, il y a aussi la sûreté. Je l'avais interpellé sur qu'est-ce qui se passerait à Cray en cas d'accident. En cas d'accident majeur, voilà, les parkings d'urgence, l'évacuation, etc. Ça lui avait pas plu du tout. J'attends toujours les réponses et je continuerai de l'interpeller là-dessus, même ne serait-ce sans même parler financier en termes de sûreté et de sécurité.
Merci Yann. On va reprendre le cours de notre émission. C'est toujours trop court, mais on envisage toujours de recontacter les personnes que l'on a déjà rencontrées pour revoir un sujet. Donc je pense que l'on se reverra assez rapidement à Atomic Mac. Et merci encore.
Avec plaisir. Merci.
Eh bien maintenant, après cet entretien avec Yann, c'est à Pierrick de nous parler de notre agenda. Pierrick.
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter l'agenda du mois de mai qui est plutôt cool. Aujourd'hui, le 6 mai à 20h30 à Die à la salle polyvalente, il y a un forum citoyen qui est organisé sur la transition énergétique et des questions assez simple, quelle énergie pour demain, à quel prix, comment développer les potentiels sur notre territoire. Donc si vous souhaitez, vous y rendez, il y a des échanges importants qui vont avoir lieu sur ces thématiques-là, des informations et le débat aura lieu. Voilà, il y a également de programmer, comme vous le savez, tous les samedis matins, Porte Neuve à Valence, de 11h à 12h30, la présentation de la carte des zones d'exclusion et de pollution à long terme en cas d'accident nucléaire. Donc n'hésitez pas à aller rendre visite à nos petits camarades. Il y a le 15 mai d'organiser à 17h45 à Chabeuil, à l'espace Cluny, 2 rue Durand, une initiative de l'association Vivre à Chabeuil sur la transition énergétique. Comment l'imaginez-vous? Bien évidemment, tous ces débats ont pour cadre le débat national sur la transition énergétique. Petite différence avec ce débat du 15 mai à Chabeuil, c'est qu'il y a la participation d'une compagnie de théâtre, la compagnie Janvier. Donc les débats seront des débats participatifs et animés. À la fin du mois, le 27 mai, il y a la réunion mensuelle de sortir du nucléaire en Dromardèche, sdn26-07.org, si vous voulez plus d'infos, à la Frapna, Drôme, rue de Verdun, à Valence. Il y a d'organiser le 1er juin, à l'initiative du parti Europe Écologie Les Verts, un grand forum sur les solutions locales pour une énergie durable. Visiblement, il y a beaucoup de participants qui seront présents à ce type d'initiative. Probablement, notre association y sera présente. C'est à confirmer parce que c'est dans un mois et on n'a pas tous les détails. Donc, réservez la date du 1er juin. Il y a trois tables rondes qui sont prévues sur l'industrie, l'économie et l'emploi. Il y a une autre table ronde sur l'innovation pour engager la transition énergétique, et une troisième table sur quel coût, quel bénéfice et quel financement de la transition énergétique. Ça promet de phosphorer beaucoup, donc je vous invite à bloquer ça dans vos agendas. N'hésitez pas d'ailleurs, entre-temps, si vous avez des questions, à téléphoner sur le répondeur au 0805 696 758, c'est un numéro gratuit, pour poser toutes les questions que vous n'osez pas poser sur le nucléaire. Notre prochaine émission aura lieu le 3 juin prochain. On a eu la chance de pouvoir écouter la petite voleuse de Olivia Ruiz. On a entendu Troisième couteau de Bernard Lavillier. Tout de suite après, nous entendrons Cana du collectif Stottbur. Mais avant, il faut que je vous dise que cette émission a été réalisée avec la participation de Georges, Dominique, Alain et à la technique Andrea, Vanessa et Céline. Un grand merci également à toute l'équipe de Radio Méga de nous accueillir sur 99.2. Et maintenant, place à la musique pour passer le mois de mai en chanson. Merci à vous.
Militant B, je vote green, écolo. La nature, j'en suis agro. L'uranium, c'est pas bon pour l'homme. Le radium, pas tellement économe. Lève les bras, manifeste-toi, arrêtez-moi tout ça. Ne plus rien faire, ne plus se taire contre la raison d'état.
Bon, dis-moi quoi mettre dans un voile en haut.
Que dire, que faire? Nous voilà partis pour le nucléaire. En vérité, je vous le dis, on se fiche bien de notre avis. Pourquoi se taire? Faudrait bien stopper le nucléaire. En vérité, je vous le dis, y'a moins dangereux comme énergie.
Oh là là, 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 l'homme qui veut faire errer des traits, nous la nature. L'homme qui veut faire errer, gâter nous l'atmosphère. Mon frère, mon sœur, il n'arrive les tiens, nos bombes nucléaires. Si ça continue comme ça, n'a pas qu'à pas respecter ton l'air. Mon Dieu, pas t'en fouillon, colis, tu crées nous la nature. Pas toi, quand t'en vine, t'en vine, la poule, t'en vine, des traits, what's up?
Que dire, que faire? Nous voilà partis pour le nucléaire. Si je peux vous donner mon avis, faut militer pour l'écologie.
Mon Dieu, maman, combien t'en sa voix l'enfant?
Pourquoi se taire? Faudra bien se stopper le nucléaire.
Bon, 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 c'est un petit jeune homme bombe nucléaire.
Non, 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 tout cela n'est vraiment, vraiment pas marrant. Non, 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 on va se mordre les dents. Non, 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 il est temps de convaincre les gens. Non, 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 on va se foutre dedans. Il nous cache tellement de choses à propos des centrales. S'il en
faut se bouger pour continuer dans les rues manifester. Tout le monde ensemble pour la survie de l'humanité.